Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Belles Lettres. L'édition d'aujourd'hui est consacrée au chant de la fidèle Junyang. Ce texte anonyme, transmis de manière orale au fil des siècles, est traduit du coréen par Che Mingyang et Jean-Noël Juté et paru aux éditions Zulma. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Yi Mong-yong, le fils du gouverneur de la ville de Namwon, située au sud-ouest de la péninsule coréenne, tombe amoureux de Chunyang, fille unique de Wolmei, une kiseung, c'est-à-dire une courtisane versée dans les arts et les services des puissants, qui s'est retirée depuis longtemps. Malgré la différence de la classe sociale, les deux jeunes se marient à l'insu du père du Mong-yong. Cependant, leur bonheur ne dure pas longtemps. Le jeune gentilhomme est obligé de quitter sa bien-aimée pour suivre son père qui est nommé à un nouveau poste dans la capitale. Pyeon Hak-do, le nouveau gouverneur, abuse de son pouvoir pour prendre Chunyang, qui refuse obstinément en dépit de tous les sévices qu'on lui inflige. Quant à Mong-yong, il réussit au concours de recrutement de hauts fonctionnaires. Chargé d'une mission d'inspection secrète, il retourne à Namwon déguisé en mendiant. Il révèle enfin son identité, chasse le gouverneur corrompu et délivre Chunyang. Écoutez maintenant un extrait du livre. Il s'agit de la scène où Mong-yong aperçoit sa future bien-aimée pour la première fois. Voici quelques passages du roman, pages 32 à 36. On était au printemps, la plus belle saison de l'année, au cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Chunyang, la fille de Wolmei, s'était initiée à la poésie. Comment une personne sachant comme elle versifier n'aurait-elle pas profité des charmes de cette saison? Précédée de Hyangdan, sa servante, elle descendit faire de la balançoire. Ses cheveux étaient élégamment tressés comme un entrelac d'orchidées. Une épingle sortie d'un couple de phénix traversait horizontalement son chignon. Elle avait la taille si fine sous sa jupe qu'on aurait dit une branche de saule bercée par le vent. Elle avançait avec souplesse d'une démarche élégante, aussi légère que gracieuse. Saisissant la corne de ses mains délicates, elle mit les pieds sur la planche et s'envola. De dos, elle offrait au regard l'épingle de jade et d'argent de son chignon. De face, on apercevait son petit poignard à sa ceinture, aux manches d'ombre et de jade. Sa chemise doublée d'une fine gaze de soie chinoise, avec des nœuds de la même couleur, lui seyait à merveille. Là-bas, le jeune Yi se morfondait dans sa solitude en regardant voltiger les hirondelles dans l'air printanier. Mille pensées l'assaillaient. Il se disait en lui-même « La belle Sanchi ne viendra pas me voir puisqu'elle a suivi Bom Sobek, ni la belle Wu qui a choisi de mourir avec son roi, ni Wang Sogun qui a fui le palais impérial pour se retirer dans la montagne, et pas davantage Pan Chubia qui s'enfermait pour chanter, ni non plus Zhu Biyan qui se promenait au palais de Suyang à l'aurore. » Ses pensées devenaient confuses. « Pangja, oui maître, veux-tu aller voir là-bas ce qui flotte dans l'air ?» Pangja s'exécuta, puis revint. Ce n'est rien d'autre qu'une jeune fille, Chunyang, la fille de Wolmei, une kiseung qui a fait son temps. Le jeune homme se surprit à dire. Elle a l'air fort belle, très belle assurément. Sa mère est une ancienne kiseung, mais sa fille a refusé de suivre la même voie. Elle n'est pas seulement belle, elle sait lire, elle écrit joliment et elle a appris à se conduire de la meilleure façon. Elle n'a rien à envier aux demoiselles de la meilleure société. Le jeune gentilhomme dit en riant à Pangja. « Si je t'entends bien, c'est quand même la fille d'une kiseung, alors va vite la chercher. Sa beauté est maître et de notoriété publique dans toutes les provinces du sud. Tous les fonctionnaires jusqu'au gouverneur et tous les grands coureurs de jupons ont voulu la voir. Mais elle est vertueuse et manie les mots aussi bien que Ibek et Tumok. Elle a un caractère de la plus grande douceur et elle égale en sérieux les 12 épouses du roi Sun. Je vous en supplie, ne me demandez pas d'aller la chercher. Y éclata de rire. Tu ne sais donc pas comment va le monde? Il n'est rien qui ne finisse par tomber dans les mains de l'un ou de l'autre. Il n'est jusqu'au jade blanc du Mont Han ou de l'or de la Yosu qui ne deviennent en fin de compte la propriété de quelqu'un. Va vite, amène-la-moi. Voilà, c'était un extrait du chant de la fidèle Chunyang. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Belles Lettres. Nous allons continuer à lire ensemble le chant de la fidèle Chunyang, traduit du coréen par Chu Mi-young et Jean-Louis Juté. L'art du peuple par excellence, qu'est le pansori, a vu le jour vers le début du XVIIIe siècle parmi les petites gens, fortement inspirés des chants chamaniques de la province de Chola, située au sud-ouest de la péninsule coréenne. Cet art vocal a également puisé dans les romans et dans les classiques chinois. D'ailleurs, de nombreux passages conservent une forme archaïque de langue, pleine de références savantes, ce qui complique la compréhension des auditeurs ou des lecteurs. Le texte change sans cesse de registre, allant des métaphores lyriques au jeu de mots, de la farce érotique à la référence savante. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un passage du chant de la fidèle Chunyang qui illustre bien cet aspect complexe du texte de Pansori. Voici un extrait du texte, pages 44 à 46. Il s'agit de la scène où notre héros Mongnyong, de retour chez lui après leur première rencontre, soupire pour la belle Chunyang. Mais le beau visage de Chunyang ne quittait pas ses pensées. Sa voix chantait à ses oreilles, son image surgissait entre les lignes qu'il lisait. Il prit le livre des ondes et se mit à lire à voix haute. De beaux oiseaux chantent au bord du ruisseau, les femmes vertueuses cherchent la compagnie des hommes honnêtes. Ah non, ce n'est pas ainsi que va la vie, je ne peux pas continuer à lire cela. Il prit la grande étude. La voix, c'est la lumière apportée au monde. La voix, c'est Chunyang, cela non plus je ne peux pas. Il prit le livre des mutations. Wan Yang Yi Chang, l'origine de toutes choses, c'est Wan, le printemps et la vertu, puis Yang, l'été et la déférence, puis Yi, l'automne et la justice, puis Chang, l'hiver et la sagesse, puis Chunyang. Quelle merveille, comment donc aller plus loin? Il essaya un poème de Wang Bo, le pavillon du prince Deng. Ancienne préfecture, Namchang avait à Hongdo cédé la magistrature. Voilà qui est bien rimé. Il continua avec les entretiens de Mencius. Mencius avait fait un long voyage pour venir s'entretenir avec le roi Yanghe. Le roi alors le loua. Vous avez franchi 100 lieues pour venir voir Chunyang. Il abandonna ses livres pour les mémoires historiques. Au commencement des temps, le premier souverain céleste, puis ses 12 frères devinrent rois tour à tour grâce à des galettes ou genépis, et chacun régna 18 000 ans, et leur règne fut paisible et tout se passa à merveille sans qu'ils eussent à produire d'efforts. Pangja le coupa. « Maître, j'ai entendu dire que c'était grâce à leur vertu qu'ils étaient devenus rois, mais jamais grâce à des galettes. Espèce d'ignorant, les souverains célestes, pendant leurs 10 000 ans de règne, ont mangé des galettes très dures sans jamais souffrir des dents. Mais comme les lettrés, eux, n'avaient pas les dents assez solides, Confucius, après une longue méditation, a décidé qu'il fallait remplacer les galettes dures par des galettes tendres. Toutes les écoles confucéennes ont ensuite imposé cette mesure. » Les dieux eux-mêmes ne vont pas en croire leurs oreilles, commenta Pangja. Voilà, c'est écouter un extrait du chant de la fidèle Chunyang. La semaine prochaine, je vous présenterai une autre pièce de Pansori, Sugonga, le dit du ballet sous la mer. D'ici là, portez-vous bien.